toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Guéret, Sophie Torlotin.
Connaissez-vous le spinning ? Jusqu'à il y a peu, je n'avais pas entendu parler de cette discipline du sport automobile née dans les townships sud-africains et alliant cascade, prouesse technique et sensations fortes. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Le spinning et ses pratiquants sont au cœur d'une série intitulée Spinners et dont les deux premiers épisodes seront diffusés sur Canal+ lundi prochain, disponible sur MyCanal, une série Canal+ originale tournée en Afrique du Sud mais conçue et produite par deux Français. Benjamin Hoffmann, bonjour.
Bonjour, merci d'être accueilli.
Vous êtes le showrunner de la série Spinners. Et Joachim Landau, bonjour.
Bonjour.
Vous en êtes le producteur. Avec vous, on va parler longuement de spinning, mais pas uniquement, car c'est un élément de contexte, hein, sachant que Spinners parle de violence des gangs dans les cités déshéritées de la nation arc-en-ciel et de comment y échapper. À l'affiche de notre cinéma aussi ce samedi, un autre sport automobile, autre élément de contexte et de compréhension d'un pays, mais cette fois on parle des États-Unis. Il s'agit de Bikeriders, gang de motards des années 60, et c'est le nouveau long métrage de Jeff Nichols. Et puis nous serons en ligne avec Claire Diao pour parler de la sortie en Afrique du documentaire de Mathieu Diop, Dahomey.
Happy birthday, boy.
When my dopey died, I had nothing. Damien took me in and helped me get by.
Now, what were you doing this at this time of the night?
I was walking home when those guys robbed me.
What's with all the tools? I'm into spinning, the sport.
They don't mess with cars.
There's a little more to it than that, Bill.
Un extrait de la bande-annonce de Spinners, la série que vous avez conçue, Benjamin Hoffmann, et produite en ce qui vous concerne, Joachim Landau. Alors tout d'abord, comment, français, on en vient à écrire une série sur cette discipline automobile si spécifique d'un pays si éloigné géographiquement et culturellement ?
Peut-être
Benjamin.
Justement parce que français ou peut-être parce que non sud-africain. Joachim et moi, on partage une passion commune pour l'Afrique du Sud pour des raisons diverses et maintenant connexes puisqu'on y a beaucoup travaillé ensemble. Et il y a quelques années, en 2017, j'ai habité à Cape Town pendant plusieurs mois. Et avec cet œil neuf de l'étranger qui découvre un pays, j'ai navigué dans différents univers, fait beaucoup de rencontres. Et j'étais très, très curieux aussi de ce que je découvrais, des différentes cultures et sous-cultures que j'ai pu rencontrer, découvrir dans la région du Cap où j'habitais. Et je suis un jour tombé sur le spinning et j'ai été complètement époustouflé par ce que j'ai vu. Dans la foulée quasi immédiate, j'ai appelé Joachim en lui disant « Écoute, est-ce que tu connais ça ?» Il en avait entendu parler. On s'est pris de passion tous les deux pour le spinning avec pour idée de raconter une histoire autour de ce sport mécanique.
Vous, Joachim, c'est quoi votre rapport à l'Afrique du Sud et donc au spinning ?
Je dirais que c'est une histoire d'amour multifacette, mais ce qui m'a tout de suite plu dans l'Afrique du Sud, c'est la multitude de cultures, justement, qu'on ne connaît pas. Et en fait, au début, c'est une curiosité vraiment bienveillante, normale, de quelqu'un qui ne connaît pas et qui découvre des choses absolument passionnantes. Et le spinning fait partie de ces choses passionnantes qu'on a découvertes. Et derrière le spinning, il n'y a pas qu'un sport, il y a toute une culture. Et en fait, on a mis le doigt dedans et on a été complètement aspiré. Et en fait, spinner, d'une certaine façon, c'est une histoire d'amour ou une lettre d'amour au spinning, à l'Afrique du Sud et toutes ces cultures, même si on pousse particulièrement l'une d'entre elles dans Spinners.
On va bien sûr rester en Afrique du Sud, mais on va faire un petit détour par le Togo, là actuellement, où vous vous trouvez, Claire Diao, bonjour.
Bonjour.
Avec Soudou Connexion, vous distribuez le documentaire Dahomey de Mathieu Diop. Dahomey, donc le film qui a décroché l'Ours d'Or à la dernière Berlinale. Et vous accompagnez la sortie africaine, hein, puisque Dahomey est sorti en salle début mai au Sénégal et au Bénin. Donc on imagine la charge symbolique, hein, puisque il faut le rappeler, Dahomey parle de la restitution au Bénin des œuvres d'art spoliées, les 26 trésors royaux spoliés pendant pendant la colonisation. Et puis, il montre aussi les réactions de jeunes étudiants de l'université d'Abomey. Donc, j'imagine, Claire Diao, que le film au Sénégal et au Bénin parle particulièrement aux spectateurs.
C'est en fait le souhait de la réalisatrice Maty Diop, qui avait déjà invoqué cette jeunesse sur scène lors du Festival de Berlin et de la remise de son prix, et qui l'a convoqué dans son film à travers toute une séquence de débats pour interroger la jeunesse béninoise sur son patrimoine et son héritage culturel. Dans les deux pays, nous avons à la fois travaillé la sortie salle, mais également des projections en plein air à destination de cette jeunesse, c'est-à-dire à travers des universités. Au Sénégal, le film a été présenté à l'université Cheikh Anta Diop et à Saint-Louis à l'université Gaston Berger. Au Bénin, le film a été présenté à l'université Abomey-Calavi.
Et du coup, il y a un effet d'écho ?
D'un point de vue de distribution, c'est très paradoxal parce que nous, l'objectif, c'est de ramener les gens en salle, que les gens apprennent, réapprennent à acheter des tickets de cinéma. Et quand une projection plein air ou des projections universitaires, c'est des projections gratuites à destination de l'ensemble des étudiants. Donc on est vraiment sur deux propositions économiques complètement différentes. Mais du point de vue du public et de la mobilisation, le fait d'avoir la présence de la réalisatrice et même au Bénin de l'équipe du film est essentiel pour pouvoir susciter le débat. Quand on parle des projections au Sénégal, on parle quand même de 200 à 500 étudiants par projection qui se sont mobilisés. Quand on parle du Bénin, on est plus étonnamment un nombre plus réduit. On était à environ à 300 spectateurs du côté de l'université d'Abomey-Calavi. Mais il y avait aussi une rencontre avec Alain Godonou, qui est donc directeur de musée, spécialiste de cette thématique des œuvres d'art. Et finalement, on a pu assister à la présence d'un grand universitaire, d'un spécialiste qui se déplaçait à l'université et faisait enfin cette rencontre et cette discussion avec des étudiants qui, en temps normal, n'avaient pas vraiment lieu.
Est-ce que c'était important, Claire Diao, que Dahomey sorte dans les salles africaines avant de sortir en France, hein ? Il sera à l'affiche le 11 septembre prochain.
Je crois qu'il était primordial de montrer ce film d'abord en Afrique avant la sortie française. Et c'est aussi pour ça que Soudou Connexion a accepté de le distribuer, parce que il est très rare que des cinéastes qui ont produit ou coproduit leurs films entre l'Afrique et l'Europe privilégient le continent africain en première sortie. On sait qu'il y a énormément d'enjeux, d'exclusivité, de peur de piratage, mais en même temps permettre les projections plein air, en rappelant bien sûr au public de ne pas filmer les écrans. Et voilà, ça, cette visibilité sur le continent est essentielle puisque c'est le sujet même du film et c'est le public premier pour ce long métrage Dahomey. La suite, bien sûr, le rapport à la France, en fait, c'est un film qui va dialoguer avec les deux continents. La thématique du rapatriement d'œuvres d'art n'est pas propre au Bénin. Beaucoup de pays d'Afrique sont emparés. Il est vraiment essentiel que des deux côtés du continent, les personnes puissent le voir. Et c'est d'ailleurs le retour d'une des spectatrices à l'issue de l'avant-première au Bénin qui nous a dit qu'il est essentiel que des deux côtés de la Méditerranée, les gens puissent voir ce film. Now there's something special. A lot of people forget that hard work actually takes hard work. Don't forget, paying your dues is paying your dues, man. There's no easy way out. Abracadabra, skill to a habit, 10,000 hours of practice to match it. Beginner to a master, lassos and ratchets, tattoos and matches. We burn down the borders and vacuum the ashes. It's all work, no play, gas mask attachments. Fireborn averages, ride along savages. Everybody jump on desire-drawn chariots. Hotel Marriott, room with the view. Custom fitted life's nothing new to me, dude. Perseverance at my back like a beautiful tune. You talk money, but the fact is that you and the truth parted ways a long time ago. Just you in the booth, telling age-old stories about you and your crew. Read me a page while I'm taking a view. Say, read me a page while I'm taking a view. Say, yo, time fears no man. Hard work always gonna beat no plans. Strategize on your blueprint, young Dan. Day and night, put the work in and push the price. Life's a contact sport, you gotta play it right. Say, life's a contact sport, you gotta play it right. Say, yo, time fears no man. Hard work always gonna beat no plans. Strategize on your blueprint, young Dan. Day and night, put the work in and push the price. Life's a contact sport, you gotta play it right. Say, life's a contact sport, you gotta play it right. Say, life's a contact sport, you gotta play it right. Say, life's a contact sport, you gotta play it right. Day walk or the night shift, bright lit. Pay dues on the right flip.
get returns that in turn have you turn on the light switch. Mind over matter, got life in a tight grip. Bomb vibes with the right click. Plenty minds been denied good times for the wrong chick. Keep your guard till your guards get their guard up. Be the bar to be squad up. No dogs hit the bar's touch. I don't run around with small pups. No bark and a soul bluff. I paint targets in the morning by sundown. Have them all touch. Sling swords for my portion of dust. Ring lords, what we called in the clutch. Being cautious is called for when calling on us. When calling on us. Say yo, time fears no man. Hard work always gonna beat no plan. Strategize on your blueprint, young Dan. Day and night, put the work in and push the price. Life's a contact sport, you gotta play it right. Say life's a contact sport, you gotta play it right. Say yo, time fears no man. Hard work always gonna beat no plan. Strategize on your blueprint, young Dan. Day and night, put the work in and push the price. Life's a contact sport, you gotta play it right. Say life's a contact sport, you gotta play it right.
Blueprint par F de Chef, un des sons que l'on entend dans Spinners, votre série Benjamin Hoffman. Ce type de rap, c'est du Kwaito, c'est ça?
Oui, c'est un type de rap. Alors, je vais vous parler de la bande-son de Spinners parce qu'elle est un personnage très important de la série. On a eu la chance pour Spinners et pas seulement pour la musique de s'entourer des meilleurs talents sud-africains. Et on a une personne que j'aimerais citer qui s'appelle DJ Ray Didi, qui est considéré comme un des OG, original gangsters du hip-hop en Afrique du Sud, qui est un des précurseurs du hip-hop depuis les années 80, qui est encore très très connu, reconnu, et qui est toujours très actif, et qui a été notre superviseur musical. Et grâce à lui, on a pu accéder à énormément de petits producteurs très peu connus de rap et de hip-hop dans le Western Cape, dans la région du Cap. Et donc cette bande-son a été conçue en grande partie par lui.
Ouais. Oui, donc c'est spécifique à cette région,
ouais,
du Cap. Le Cap, on y est. Alors, donc, on est dans un township imaginaire de Hills.
Alors, c'est pas réellement un township, si on veut être vraiment précis. C'est une zone de la grande banlieue du Cap qu'on appelle les Cape Flats, extrêmement plat, engoncé entre les montagnes. Donc c'est pas réellement du township, puisque c'est vraiment de la construction dure. C'est des grands baraquements qui ont été construits pendant la période de l'apartheid pour des raisons évidemment politiques, mais aussi de déplacement de population et pour installer les gens, pour qu'ils aient un accès à la ville pour travailler. Et The Hills, c'est une banlieue, donc un flat imaginaire, mais inspiré d'endroits très réels. On a fait ce choix délibéré de pas nommément choisir un lieu, mais d'en donner toutes les caractéristiques pour qu'il soit reconnaissable et le plus légitime possible.
Le héros de Spinners, c'est un jeune de 17 ans, Ethan, hein, qui fait office de chauffeur pour un gang. Alors j'imagine que sa situation familiale est malheureusement très répandue là où il habite, en général en Afrique du Sud, à savoir mère célibataire. Son père est mort justement en faisant office de chauffeur pour le chef du gang, hein, Damien, qui va lui prendre le jeune sous son aile avec, faire un peu office de père de substitution, en tout cas, ou de mentor.
Oui, il y a peut-être une confusion entre les deux. Et sa mère, mère est célibataire, mais mère absente surtout. Et c'est la raison qui va pousser Ethan à accepter, ou en tout cas à travailler pour ce chef de gang, à devenir le chauffeur du gang, parce qu'il a ce petit frère dont il a envie de s'occuper. Il est très responsable, il devient le chef de famille par nécessité. Il va donc accepter ce job, prendre ce job de chauffeur pour le gang, mais sans avoir vraiment l'âme d'un gangster.
Et il rencontre par hasard un autre jeune de son âge, Shane, qui c'est celui qui va l'initier au spinning. Shane, lui, vit avec son père depuis que sa mère est morte.
What's your name?
Ethan.
I'm Shane, that's Charlize. It was my daddy's dog before she passed away. Named after the actress.
Sorry.
For what? My daddy or the dog's name?
I'm only joking, bro. Is that your dad?
Yeah.
Is he here?
No, it's not Jake. I might relax. He's a trucker on the road a lot. So I have the house to myself most of the time. It's pretty sweet. Where are you from?
Southside.
And what were you doing this time of the night?
Well, it's at the party. Wasn't really my scene, so I left. I was walking home when those guys robbed me.
Sure, bro. Lucky all you got was a cut.
So what's with all the tools in there? Broken car back.
Well, the tools, that's my dad's in the car. That's all mine.
Fixing it up or something?
Sorta. You know, I'm into spinning. Sport.
Voilà, donc première rencontre entre Shane et Ethan, puisque Ethan a trouvé un peu refuge chez lui par hasard. Comment vous avez fait, Benjamin Hoffman ? Est-ce que vous êtes, parce que donc vous êtes français, vous n'êtes pas sud-africain, vous êtes beaucoup documenté pour écrire et toute la complicité aussi de tous ces personnages ?
Oui, il y a un énorme travail de documentation en amont. Moi, je viens en plus du monde du documentaire. Ce qui, je pense, a aidé aussi et qui a... J'avais une curiosité très aiguisée et une vraie, je pense, sensibilité aux gens et aux histoires qu'on me partage. Donc, évidemment, le spinning m'a très vite intéressé. J'ai lu et vu tout ce que je pouvais faire et ce à quoi je pouvais accéder en ligne. Puis, on a rencontré avec l'équipe, avec Joachim, avec les scénaristes qui ont développé les caractères, les arches des caractères, qui ont dialogué toute cette série et qui l'ont bâtie et construite. On a été à énormément d'événements de spinning, on a rencontré du monde. Donc... il y avait assez peu de place pour l'imagination. Évidemment, dans les histoires de nos personnages, on avait une liberté totale, mais le cadre était très posé et on avait envie de donner une couleur très authentique à cette histoire. Donc, il y avait en amont beaucoup de travail de documentation.
Justement, Joachim Landau, comment on fait pour produire un film avec autant de... Parce qu'on entend beaucoup de langues dans la série. On entend aussi des intonations très différentes. On imagine, alors moi j'imagine, mais en fait je ne sais pas, qu'il y a certaines personnes ne viennent pas du tout de la région du Cap. Oui. Comment on fait pour organiser un casting pareil en tant que producteur ? Il y a beaucoup d'acteurs en Afrique du Sud.
Il y a beaucoup, beaucoup de comédiens. Il y a beaucoup de très, très, très bons comédiens. Pour répondre à la question, c'est quand même une terre de cinéma et de télé, l'Afrique du Sud.
Depuis très longtemps.
Donc, en tant que producteur, c'est assez génial quand on soit un producteur sud-africain ou étranger, on peut découvrir plein de talents et on a un vivier et un choix, une diversité. Ça n'a pas été complexe du tout, en fait, pour la simple et bonne raison que arriver avec un texte qui était très bien façonné par Ben, John Steinberg, Matthew Jenks, qui sont les head writers de la série, on avait une matière que beaucoup de gens avaient envie de défendre. Donc, du coup, quand on fait un appel à casting, et ça a été la méthode pour notamment Ethan et un certain nombre de comédiens, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui disent « moi, j'ai envie de faire ça ». Et particulièrement parce qu'on on met en avant la communauté colored, et donc du coup, qui est une communauté qui est souvent stéréotypée. Il y avait beaucoup de comédiens colored qui disaient « chouette, là, c'est une occasion ».
Ça veut dire quoi, colored ? Colored,
en fait, c'est une...
C'est pas noir.
Non, c'est pas noir, et c'est pas le terme colored tel qu'on l'entend dans d'autres pays anglophones comme aux États-Unis. C'est un agrégat, je le dis...
Ça vient de l'apartheid.
En fait, c'est une autre nation qui sont ni blancs, ni noir, c'est un grand mélange en fait. Alors en effet, il y a une partie de racines européennes, une partie de racines africaines avec des Zoulous, des Kosa, une partie qui est plus Khoisan, donc les premiers peuples qui habitaient l'Afrique du Sud. Leur langue, c'est l'Afrikaans, et tout un tas d'argot et de slang qui tournent autour de l'Afrikaans, qu'on entend, donc l'accent, certains gros mots qu'on peut pas comprendre quand on est locuteur francophone. Mais pour revenir aux comédiens, du coup, on a un vivier de jeunes acteurs et de moins jeunes acteurs de théâtre, par exemple, qui veulent défendre une autre façon de parler de cette communauté-là. Donc en tant que producteur, en fait, c'est plutôt génial et jubilatoire parce qu'on se trouve face à une immensité de talents.
Et puis quand on parle des colored, c'était aussi les Indiens. Et je me disais en voyant la série, c'est la première fois que je vois l'Afrique du Sud représentée dans une diversité aussi incroyable.
C'est vrai, c'est vrai.
Parce que souvent, on a tendance, pardon de vous couper la parole, mais on a tendance de voir l'Afrique du Sud, enfin, c'est les Noirs contre les Blancs.
Ouais, et ça ne veut rien dire en Afrique du Sud, puisque quand on est Blanc, on peut être Afrikaner, on peut être d'origine anglo-saxonne, on peut avoir deux passeports. Quand on est Noir, ça ne veut rien dire. Si on est de la nation Zoulou, de la nation Kosa, de la nation Shona, il y en a plein. Puis on peut être Noir d'origine zimbabwéenne, qui est encore d'autres. Donc ça ne veut strictement rien dire. C'est une appellation très simpliste pour nous. Et la nation colored, eux, ne se revendiquent absolument pas comme noirs, comme vous le disiez, absolument pas comme blancs. Et j'irais même que les Sud-Africains d'origine indienne sont même une communauté un peu à part. Mmh. Parfois, on les prend dans une communauté qu'on appelle les Asiatiques, où on va avoir des Sud-Africains d'origine chinoise, mais pas que. Donc, il y a vraiment ce morcellement d'un pays. Parfois, y a des gens qui se parlent, il y a des gens qui travaillent ensemble, parfois pas du tout. Et en fait, dans cette série, même si on pousse un peu la communauté colored, parce que ça se passe dans un milieu particulièrement colored, qu'est le Western Cape, et particulièrement le flats qu'on a inventé, qui repose sur un flats réel, il y a quand même des comédiens, des personnages qui viennent d'ailleurs. Et ce qu'on voulait aussi raconter à travers ces comédiens qui campent des personnages, c'est que parfois ça se passe très bien entre communautés, parfois ça se passe pas bien, mais que c'est pas forcément les ressorts qu'on imagine. C'est pas du côté blanc-noir, etc.
Et comment vous avez repéré Cantona James, donc, qui joue donc, le rôle principal, Ethan ?
Cantona James, c'est une sacrée histoire. Je vais raconter une anecdote. Joachim a un lien avec cette anecdote. On a casté Cantona un an et demi avant de commencer le tournage. Il était évidemment le personnage le plus important à trouver. Et j'étais à Cape Town pour une semaine dans la seule optique de trouver Ethan. Et j'avais donc une semaine, 5 jours je crois, de casting et une 60aine de comédiens qui devaient venir. On commençait le lundi matin à 9h. Un type appelé Cantona James rentre à 9h05, fait le casting. La directrice de casting, l'opérateur derrière la caméra sont en larmes à la fin du casting. J'envoie un message à Joachim, je dis... J'ai trouvé Ethan. Et il me dit non, t'es là pour une semaine, va bosser. Et je dis non, je t'assure, je l'ai. Et j'ai malgré tout vu les 60 ou je sais pas, 45 qui suivaient. Et c'était une évidence absolue, ça devait être lui, c'était lui. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu le moindre doute, c'était une évidence. Il a complètement incarné ce personnage.
Il a incarné ce personnage. Et alors j'ai vu que, je ne sais pas si c'est vrai, que dans les figurants, en tout cas, il y avait des membres de gang.
Absolument.
C'est vrai, ça, c'est un gage de véracité ou c'est pour être tranquille sur le tournage? Ah, le
ça
producteur.
Ça dépend ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire à la radiographie. Non, c'est pas du tout. Il n'y a pas l'idée d'être tranquille. En fait, on n'est pas dans une manipulation. On n'était pas dans une frayeur, dans une inquiétude particulière, parce qu'on travaillait. Moi, j'ai un copro sud-africain et je tiens à le nommer, qui s'appelle Ramadan Souleymane, qui est en plus réalisateur et qui est très 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 fort et très très bon. Et on n'est pas dans une inquiétude. On avait une équipe de production sud-africaine au top, donc il y a des besoins de sécurité, mais. Je sais que ça va irriter, provoquer pas mal de gens, mais c'est comme si on tournait dans des cités un peu dures en France. C'est pas plus ou pas moins, pour être très sérieux. Par contre, l'authenticité dont parlait Ben, dont on a réfléchi, travaillé, développé avec les auteurs, avec le réalisateur Jacob Bauer, était quelque chose de très important. Donc il y a des visages, il y a des faciès, il y a des façons de se tenir, il y a des langages, il y a des zones. Et on peut être le meilleur acteur du monde, parfois, quand on est confronté au réel, et particulièrement parce que Ben, moi aussi, je viens du documentaire, le chef-op vient du documentaire, quand on capte ça, il y a quelque chose qui me fait dire, même aux gens qui voient, parfois on a l'impression, on ne sait pas tellement si on est dans la fiction ou pas, dans certains lieux. Donc c'était vraiment pour ça, pour cette force et cette puissance d'image.
Un extrait de Spinners, quand Ethan assiste pour la première fois à une démonstration, il repère Amber, qui est une conductrice brillante.
Mais qui ne peut pas la repérer?
Alors le spinning, c'est une forme, alors je ne sais pas si on peut parler de rodéo, enfin, c'est une forme de sport enfin, où voilà, on brûle beaucoup les pneus, hein, force de faire des tours, enfin les voilà, spinning, hein, comme la figure physique, hein, la voiture tourne sur elle-même, c'est presque comme une danse aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a donc des enfants, des vieux, des jeunes, des femmes, des riches, des pauvres qui pratiquent, qui sont pris au jeu du spinning.
Tout est vrai. C'est une chorégraphie qui souvent n'est pas conçue en amont. Il y a une grande part d'improvisation. Alors, pas pour nous lors du tournage. Là, c'était très chorégraphié, c'était très pensé en amont. Il y a eu énormément de travail. Et je reviendrai peut-être dessus ensuite sur comment est-ce qu'on a pu construire ces scènes de spinning, parce que c'est extrêmement dur à mettre en place et à filmer. Mais pour répondre à votre question initiale, oui, c'est plus qu'un sport, c'est une culture, mais qui touche les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes et toutes les communautés du pays, et qui prend de plus en plus d'ampleur, qui a des racines dans les années 80. C'est très dur à identifier les réelles racines du spinning. La région de Johannesburg et de Cape Town se tire un peu la bourre justement pour dire nous sommes les premiers à avoir commencé le spinning. C'est dur de déceler réellement qui en a fait en premier. Aujourd'hui, c'est un sport qui commence à acquérir ses marques de noblesse. Il y a des sponsors officiels, il y a de vraies compétitions organisées. Mais le cœur du spinning, ce n'est pas de la compétition, c'est vraiment du rodéo moderne. Vous avez utilisé le mot rodéo, c'est du cirque, c'est du divertissement auquel viennent toutes les communautés, tous les âges, et c'est un truc très festif, très populaire, où on vient faire un barbecue, boire des bières et assister à ce spectacle, généralement sur des places de petites villes qui ne sont pas du tout dédiées à ça, mais qu'on bloque pour faire un événement de spinning.
Est-ce que vous pouvez décrire les voitures ? Parce qu'elles sont quand même très très particulières.
Elles sont très particulières. Il y a une variété quasi infinie de voitures. Je peux rentrer dans un micro détail technique pour les mécaniciens qui vous écoutent. Pour faire du spinning, vous avez besoin d'une voiture qui soit une voiture propulsion. Et ça, c'est assez rare. Il y a une marque en particulier qui fait ça. Ce sont des voitures sur lesquelles le moteur transmet la puissance sur les roues arrière, ce qui permet donc de spinner, c'est-à-dire de faire tourner la voiture sur elle-même. C'est tout ce dont vous avez besoin pour faire du spinning. Donc, vous n'avez pas besoin d'une voiture chère. Généralement, elles ne le sont pas. Elles sont extrêmement bricolées. Il y a souvent des équipes entières qui se fédèrent pour monter une petite écurie, une équipe de spinning. C'est ce qu'on raconte d'ailleurs dans Spinner. C'est la construction de cette équipe, un peu Club des 5. Et vous avez cette voiture et vous vous présentez à des événements de spinning qui ont lieu généralement les dimanches après-midi et vous montrez ce que vous êtes capable de faire. Et il y a des enfants de 10-11 ans qui pratiquent le spinning, souvent parce que leurs parents eux-mêmes en faisaient. Une anecdote avec Joachim, la première fois qu'on est allé ensemble à un événement, on est devenu assez proche d'une famille qui est une famille importante dans le monde du spinning de la région du Cap. Le père est un spinner très connu et son gamin de 11 ans, dont la tête n'arrivait même pas au volant, était déjà une légende locale promise à un grand avenir.
Donc il faut savoir évidemment conduire, mais et bricoler, il faut les mécanos, il faut les moteurs qui vont bien, mais il y a aussi il y a le passager. Enfin, est-ce qu'il y a toujours d'ailleurs quelqu'un passager qui fait les acrobaties ou
En règle générale, oui. Parfois même certaines équipes de spinning ont plusieurs passagers. On peut faire des chorégraphies à plus. En règle générale, c'est deux. Il y a le conducteur et le passager, tout en ayant en tête que le conducteur aussi peut effectuer des figures parce que, je continue dans les détails techniques, on installe dans ces voitures des leviers hydrauliques qui permettent et de bloquer les pédales et le volant. Ce qui signifie qu'on peut bloquer son volant, ses pédales, la voiture continue à rouler ou à tourner sur elle-même et le conducteur va ouvrir la portière ou sauter par la fenêtre, parce que pourquoi pas, et danser à côté de sa voiture ou sur sa voiture pendant que la voiture roule par elle-même. Et il y a une variété infinie de figures qu'on peut réaliser, on peut en inventer à chaque run.
Mais c'est extrêmement dangereux. Non.
Nous n'avons pas les chiffres officiels.
Non, oui, mais en termes de production aussi, quand on produit un film, une série, mais bon,
oui
autant
non,
de petits
en fait,
films.
Ce qui, mais c'est chouette, et j'adore cette question, et on nous la pose souvent, et pas plus tard que ce matin, on m'a posé des questions autour de ça. En fait, non, c'est pas dangereux. Quand on fait une série, c'est pas plus dangereux que de faire une série avec des voitures qui s'emboîtent les unes derrière les autres devant la Tour Eiffel. En fait, tout est contrôlé. En fait, il y a toute une partie des adultes qui vont sécuriser un endroit. On est tous derrière des barres de sécurité. Il y a un show. Évidemment, c'est extrêmement impressionnant. Ça fait beaucoup de bruit. Donc, on est tout de suite, on a le ventre, on a quand même des infrabasses. Donc, on se dit, ouais, qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'est des moteurs fous. Mais il y a très, très, très peu d'accidents. Et d'ailleurs, la grande majorité des accidents, qu'est-ce que c'est ? C'est la voiture qui cale, un truc qui pète dans la voiture. Donc, en termes de production, en fait, c'est pas tellement le producteur qui a peur. C'est souvent les chaînes qui me disent, mais est-ce que t'es sûr, Joachim ? Est-ce que t'es sûr, Ramadan, que tout va bien se passer ? Et puis quand on leur rend les rushs et qu'on a une dame sur une voiture qui fait comme ça ou qui se penche en touchant quasiment, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et rien n'est truqué. Et du coup, pour finaliser ma réponse, ce que j'adore dans votre question, c'est que moi, en tant que producteur, j'ai une chance incroyable, c'est que je peux dire qu'il y a des images que vous n'avez jamais vues de votre vie en France. Jamais, c'est impossible, à part si vous êtes fan de spinning. Parce que justement, bah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en France. On fait du drift, il y a les rodéos sauvages, c'est pas du tout ça. Donc le rodéo, c'est plutôt le rodéo américain, bien encadré, etc. C'est pas du tout le rodéo comme on voit en Europe, et vraiment, je l'éloigne absolument à dessein et avec une idée assez objective de ce que c'est. Donc c'est pas particulièrement dangereux, même si c'est un sport extrême.
Mais c'est vrai, on a souvent tendance à dire que c'est du chaos contrôlé. Et pour rebondir ou pour ajouter à ce que Joachim vient de dire, toutes nos scènes de spinning étaient réalisées par des spinners professionnels et pas des cascadeurs, parce que des cascadeurs ne seraient pas capables de faire ce que les spinners font. Et on a eu recours, on a travaillé avec les meilleurs, notamment Yacine Damon, qui est un des plus grands spinners d'Afrique du Sud. Et je sais que Joachim dit souvent, il fait une analogie qui est très intéressante, il dit « c'est comme si vous faisiez une série sur la Formule 1 ». Et que les types qui doublent vos comédiens, ce serait Lewis Hamilton ou Max Verstappen. On avait les meilleurs spinners pour faire des cascades et des figures de spinning. Ça ne pouvait que bien se passer.
Et alors du coup, parlons de la réalisation, parce que forcément, ça devait être très, très pensé comme un ballet, j'imagine, comme une chorégraphie. Enfin, sauf qu'il n'y a pas des petits scotch par terre pour indiquer au conducteur, non ? C'est ça, ou tourner.
Comment
ça... Est-ce que c'était un casse-tête de réalisation ?
Alors, c'est une question sur laquelle Jacob Bauer, le réalisateur, a beaucoup planché. Je pense que c'était son plus grand défi en tant que réalisateur sur cette série. Parce qu'évidemment, il n'avait jamais fait ça. Personne n'a jamais fait ça. Joachim dit, vous n'avez jamais vu ça en France. Mais même en Afrique du Sud, on n'a jamais vu le spinning filmé comme il a été filmé. On a installé des caméras à bord des voitures. On a des drones qui les survolent. Vous les voyez dès les premiers épisodes, ces séquences-là. C'était très complexe à organiser. On a beaucoup répété avec des jouets, des voitures pour enfants, qu'on posait sur un plateau. Et avec Yacine, notre coordinateur de spinning, on élaborait les figures, ce qui était possible de faire, ce qui n'était pas possible de faire. Évidemment aussi avec toutes ces règles de sécurité qu'on voulait respecter et pour nos techniciens et pour nos comédiens. Et puis il y a la magie du cinéma, la magie de la télé qui fait qu'il y a plein de trucs que je ne vais pas vous révéler ici.
Il y a un petit côté fureur de vivre très moderne.
Absolument.
Ouais. C'est ça. Ah,
c'est juste trop bien que vous dites ça parce que pour moi, Quentin et James, pour nous, c'est vraiment en tant que cinéphile, cinéphage, etc. Cette tronche de cinéma, je veux dire, il capte la caméra, mais c'est incroyable. Quand on est allé à Cannes Série, quand même la première série africaine sélectionnée à Cannes Série, il y a eu le premier jour de Cannes Série et le dernier jour. Et Quentin et James, c'était la coqueluche de la croisette pour cet événement-là. Mmh. Il a une tête, il joue avec une émotion incroyable, on a l'impression que rien n'est fin, et il donne une puissance. Il est là dans quasiment tous les plans, peut-être pas tous, parce que, mais quasiment, et il est, c'est une performance délirante.
Kayla, t'es la meilleure spinneuse du monde à l'heure actuelle. Comment tu t'es lancée dans le spinning?
J'ai dit à mes parents que je voulais faire ça quand j'avais 14 ans. Mon père m'a acheté une voiture et je me suis lancée. C'est là que tout a commencé.
Kayla!
Ouais, vas-y!
Kayla!
Ouais!
On t'aime, Kayla!
Oui! Regarde-moi cette superstar. Il paraît que tu fais des cascades.
Tout à fait.
Pour une nouvelle série, Spinners?
Ouais. Je me suis mise au spinning avec l'espoir de faire carrière dans le cinéma. Mon rêve se réalise.
Bravo.
Merci.
Chapeau.
Voilà, un extrait du documentaire. Là, c'est sur les coulisses hein, de Spinners. Kayla Oliphant, elle a servi de modèle pour Amber?
Elle a servi de modèle pour nous, déjà. évidemment, pour Amber, il y a plusieurs jeunes filles, et moins jeunes d'ailleurs, qui font du spinning. Kayla, c'est réellement la figure de proue, c'est un modèle pour tout, c'est pas seulement pour les filles. Évidemment, pour les filles, elle a travaillé avec nous pendant... Alors, on a pensé un peu, conçu le personnage d'Amber autour de l'histoire de Kayla, et elle a travaillé avec nous parce qu'elle était la doublure spinning du personnage d'Amber, interprétée par Chelsea Thomas. Et quand elle est arrivée sur le plateau... Tous les gens du plateau sont venus me voir en me disant « Quand je serai grand, je veux être comme elle. » Elle a 19 ans. Mais oui, elle est une personnalité extraordinaire. Elle a peur de rien. C'est un tout petit modèle. Elle est toute menue, mais elle en impose et elle fait des cascades que très peu sont capables de faire, notamment celle dont Joachim parlait, à savoir se sortir de la voiture et avoir la nuque qui frôle le bitume pendant que la voiture tourne. Très impressionnant.
Très impressionnant, donc comme toutes ces séquences de ce sport automobile sud-africain. Vous l'avez abordé, Joachim Landau. Spinners, c'était la première série africaine jamais sélectionnée à Cannes Série. Elle a aussi été projetée à Dakar à l'automne dernier. D'ailleurs, c'était la grande gagnante de ce festival panafricain de séries. Vous avez constaté un appétit, un intérêt du public en Afrique pour Spinners?
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs, je pense, en tant que producteur, mais je sais que c'est assez partagé par Ben et par pas mal de gens de l'équipe, c'est un bonheur, un plaisir. C'est la meilleure des récompenses que ça plaise dans l'endroit où ça a été filmé et par les gens qu'on dépeint. Donc en Afrique du Sud, moi, je me souviens quand ça a été lancé, j'ai été assez stressé parce que je me disais, mais...
C'était en octobre dernier, c'est ça?
C'était en octobre, en novembre, ouais, fin octobre, tout à fait. Et en fait, je faisais des captures d'écran frénétiques des réseaux sociaux qui n'est pas du tout mon style, dès que les gens disaient, mais c'est incroyable, c'est fou, regardez, c'est ce qu'on fait de mieux en Afrique du Sud. Pour moi, c'était la meilleure des victoires, d'une certaine façon, parce que nous, on est des maillons, on est des traits d'union avec Ben. Évidemment, on est à l'initiative de ce projet-là, mais c'est un projet Sudaf avec, moi, ce que je dis toujours, c'est 99,9% de l'équipe. C'est que des Sud-Africains, des scénaristes, des comédiens, des équipes, de la post-production, de la musique, etc. Et c'est extrêmement important pour nous, c'est ce qui donne cette énergie. Et donc évidemment, quand on se voit sélectionné à Cannes Série, que c'est la première série africaine, on est super content, mais on représente à travers la série une communauté en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud aussi, ils sont comme tous les pays hyper patriotes, donc ils sont hyper contents d'être représentés ailleurs. Et puis il y a le Cannes qui fait rêver. Puis il y a quelque chose de l'ordre aussi du continent qu'on dit toujours, ah c'est pas mal, c'est bien. Ou alors quand on parle des lettres de noblesse, surtout du cinéma africain, c'est dans le cinéma indépendant. Et là on est dans vraiment quelque chose qui est à la confluence du... du genre, parce que c'est un thriller, c'est un coming of age, etc., mais sans se départir de son authenticité. Voilà.
Et alors du coup, parce que donc diffusé en Afrique du Sud par Showmax, en Afrique déjà par Canal+ International hein, depuis ouais. novembre. Quels sont les retours? Quelle est la réception? Est-ce que vous avez... Il n'y a pas des chiffres comme ça existe pour la fréquentation en salle?
J'adorerais. non, on n'a pas des chiffres très précis. Ce qu'on sait, très objectif, c'est que par exemple en Afrique du Sud, c'est la première série de Showmax qui a réuni des gens d'univers très différents, de communautés très différentes. Généralement, il y a la communauté Zulu, Kosa qui va plutôt voir cette série, la communauté africaine qui va plutôt voir ce film ou cette série. Déjà pour une question de langue et parfois pour une question de réalité ou de représentation des communautés. Spinners, d'après Showmax, c'est la première série où ils voient tout le monde venir. Donc pour eux, c'est vraiment super bien. C'est-à-dire qu'ils jouent sur tous les marchés, juste économiquement parlant. Puis nous, c'est une belle leçon parce qu'on ne voulait pas cliver. Dans la partie francophone, on avait une grande peur. C'était le défi pour Canal+ International, Canal+ Première. C'est est-ce que ça va marcher dans un espace francophone, une série qui peut faire penser à une série américaine alors qu'elle n'est pas du tout américaine. Et ils ont été extrêmement agréablement surpris parce que justement, ça a beaucoup mieux marché que d'autres séries anglophones. Donc en fait, ça ne crée pas, mais c'est une nouvelle goutte d'eau dans un océan où j'espère qu'il y aura plein de gouttes d'eau et avec des séries que je pourrais produire et que Ben pourra créer, showrunner, réaliser et même toute notre équipe, mais d'autres producteurs évidemment, parce que on se dit que ça se partage peut-être pas trop mal. Je sais qu'au Kenya, visiblement, la série a plutôt bien marché aussi. Donc on sent qu'il y a des appétences. Et à l'international, la série elle a été vendue au Brésil. Elle a été vendue en Australie.
Alors est-ce qu'il y aura, la grande question, est-ce qu'il y aura une saison 2
Est-ce qu'on peut déjà en parler? Est-ce qu'on peut en parler? On ne peut pas en parler, sachant que nous, on plonge sur 10 saisons de Spinners. Ouais.
Donc, Vous en avez sous le pied?
Il y en a sous le capot. Non, sérieusement, en tout cas, on sait que, pour répondre plus sérieusement, on planche sur une saison 2, on a beaucoup d'envie, on sait qu'il y a un public sud-africain et africain qui a beaucoup d'attentes, on espère que ça va marcher aussi en France. Vous parliez de la diffusion française, c'est comme une première, et c'est pas n'importe quoi qu'une série africaine soit diffusée en prime time sur Canal+ en France, c'est inédit. Donc tout ça va nous donner un peu des clés de ce qu'on peut faire pour de futures saisons.
Et alors, vous, Joachim, vous aussi, Benjamin, mais je parle au producteur chez Fédération Middle East African Caribbean, c'est
exactement,
ça?
Exactement, parfait.
Donc, vous avez d'autres projets en Afrique?
Ouais, on a d'autres projets en Afrique du Sud, on a des projets au Kenya, on a des projets en Afrique de l'Ouest qui réunissent la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et évidemment, comme vous l'avez bien dit, il y a Middle East et Caraïbes. On a des projets qui sont en Guadeloupe, en Martinique et dans la Caraïbe anglophone et aussi au Moyen-Orient.
Mais deux séries ou...
Deux séries et deux films, ouais. Et donc, nous, notre... L'idée, la ligne éditoriale de cette boîte, c'est la série de genre, c'est vraiment de la pop culture pure. C'est d'aller travailler avec des gens qui ont des références communes et qui nous amènent, nous, ce qu'on ne peut pas amener, c'est-à-dire tout le côté local, tout le côté authentique de la façon, eux, de raconter des histoires. Et puis, en fait, c'est un partage d'expérience. Donc, on n'arrive pas en disant « on veut faire ça, faites-le pour nous ». On dit « ça serait cool de faire ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Et puis, ça peut venir de tous les sens. Moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'on a tous les mêmes questions. On n'a pas forcément la même réponse. Donc, moi, j'aimerais bien faire un Harry rencontre Sally qui se passe à Kigali. Ça, j'adorerais, par exemple. Et je suis sûr qu'on peut le faire. Donc, j'essaye de faire ça.
Ouais, c'est formidable. Nous aussi, on a envie de voir.
rendez-vous la prochaine fois avec mon Harry rencontre Sally de Kigali.
Et en attendant, donc, la première saison de Spinners va donc être diffusée à compter de ce lundi 24 juin sur Canal+. Elle est toujours disponible en Afrique du Sud sur Showmax, en Afrique sur Canal+ International. Merci beaucoup Joachim Landau et Benjamin Hoffman.
Merci à vous.
Et à voir aussi donc le documentaire sur les coulisses de Spinners. On parle gang de motards chez Jeff Nichols. Nouvelle du cinéma aussi. On reviendra avec vous Elisabeth sur la disparition cette semaine d'Anouk Aimée. Juste après cette nouveauté musicale, Laila Makkala, Open the Road. êtes bien sur RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. C'est le moment de votre journal du cinéma, Elisabeth. Et pour commencer, une disparition, celle d'Anouk Aimée.
Oui, on l'a appris ce mardi, l'actrice avait 92 ans. Elle est morte quasiment 2 ans, jour pour jour, après celle de Jean-Louis Trintignant, son partenaire inoubliable dans Un homme et une femme.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux?
Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va que quand tout va bien.
Alors vous pensez qu'on devrait y aller quand tout va mal?
Pourquoi pas?
Un film désormais culte et un visage inoubliable, de grands yeux verts, une longue chevelure brune, un sourire mélancolique mais parfois si lumineux. Anouk Aimée, c'était aussi la Lola de Jacques Demy. Elle avait également tourné avec Fellini, Marco Bellocchio, Jacques Becker ou encore André Cayatte, qui la lança en 1949 dans Les Amants de Vérone. Anouk, tant aimée, titre Le Parisien.
Qu'est-ce qu'il viendrait faire à Paris?
Pour l'heure, quel beluga, vous vous êtes pas posé la question, non?
Le départ du triathlon est dans moins de 24 heures.
Et dans un tout autre registre, un requin emporte tout sur son passage.
Y compris les spectateurs de Netflix sous la scène de Xavier Gins. C'est hissé numéro 1 sur la plateforme dans plus de 70 pays depuis sa sortie le 5 juin. Le pitch, dans le contexte des Jeux de Paris, une scientifique, c'est Bérénice Bejo, apprend qu'un requin tueur vit sa belle vie sous la scène. Une course contre la montre s'enclenche alors pour le capturer.
Et en attendant, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'engage à se baigner dans la Seine le 15 juillet prochain, avec ou sans requin.
Allez, va.
Yo, putain, qu'est-ce que tu fous là, toi?
Tu n'es pas handicapé?
Si, tu veux pas handicapé,
moi. Bah, on voudrait pas.
T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne.
Et pendant ce temps-là, un petit truc en plus continue sa course folle vers les sommets.
La comédie d'Artus a dépassé les 7 millions, ce qui en fait le plus gros succès cinématographique français de l'après-Covid. Tandis que Vice Versa 2 retourne le box-office américain, raflant 155 millions de dollars dès sa sortie. Voilà qui pourrait renflouer les caisses de Pixar, filiale de Disney.
Et pendant ce temps-là, à Paris,
et dans un registre bien plus modeste, quoique, la renaissance du dernier cinéma associatif de Paris, le cas semblait désespéré. Et pourtant, au terme de 6 années d'une lutte, les Amis de la Clé ont réussi à rassembler la somme nécessaire, 2 millions d'euros de dons, en mobilisant notamment Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Léos Carax en France ou Céline Sciamma, et même David Lynch.
Donc la clé, hein, cette salle de cinéma du quartier du 5e arrondissement ne fermera pas ses portes et on s'en réjouit. Alors on vous a parlé moteur V8, enfin je ne sais pas si c'était des moteurs V8, mais enfin un gros, enfin des cylindrés. Oui, Benjamin Huffman.
Ça peut être un V8, mais
voilà.
Pas que.
On vous a parlé moteur Rodeo dans Spinners. Moi, je vous propose maintenant un petit rab d'huile de moteur avec le nouveau film de Jeff Nichols qui vient de sortir en salle en France. Jeff Nichols, c'est le réalisateur de Tech Shelter, Mud ou encore Loving, hein, des films, plusieurs films sélectionnés au Festival de Cannes, dans lesquels il montre une tendresse particulière pour les personnages en marge. Dans Bike Riders, il s'attaque au fanat de moto et particulièrement de Harley Davidson.
Tout ce que ces clubs font, c'est se réunir pour parler de leur bécane.
C'est ce qu'on fait aussi.
On est dans le Midwest dans les années 60. Johnny, Tom Hardy, a fondé avec quelques amis un club de motards, de Vandals. On y trouve notamment, hein, entre autres, le beau et taiseux Benny, joué par Austin Butler. L'histoire est racontée en voix off et quelques années plus tard par sa petite amie, Cathy, qui raconte donc comment, en quelques années, la philosophie du club a changé avec l'arrivée d'une nouvelle génération et notamment de vétérans de la guerre du Vietnam. Avec ce film, Jeff Nichols a voulu raconter aussi la bascule, hein, de l'utopie libertaire des 60s vers le nihilisme des 70s, le tout porté par un regard féminin. Jeff Nichols, que j'ai pu rencontrer lors de son séjour parisien, et je lui ai tout d'abord demandé s'il voulait se pencher sur la question de la masculinité toxique aux États-Unis.
My films are no strangers to exploring the idea of masculinity and the idea that
Dans mes films, on trouve des questionnements sur la masculinité, et en particulier sur les hommes de la classe ouvrière. Mais ce film va bien au-delà de cette question. On parle du besoin d'identification. Je pense que l'identité est au cœur de beaucoup de thématiques de nos jours. On veut tous être unique. On cherche tous à être spécial. Mais quand on cherche sa place dans le monde, on a tendance à se regrouper et on trouve son identité dans ces groupes. Cela peut être formidable ou dangereux. Et mon film montre les deux versants.
Et en même temps, l'histoire est racontée du point de vue de Cathy et pas d'un des motards ou du photographe qui les suit.
If you imagine this film only from the male point of view, it's not very interesting.
Si on imagine cette histoire que du point de vue masculin, ce n'est pas très intéressant. Ce serait même lourd. En partie parce que les hommes ont plus de difficultés à exprimer leurs émotions ou sentiments. Tous ces hommes se cachent derrière des postures. Personne ne dirait vraiment la vérité. Cathy arrive à analyser ce qui se passe en temps réel. Grâce à elle, on peut commencer à comprendre pourquoi ces hommes choisissent de vivre ainsi.
Et puis vous pointez aussi un changement d'époque.
Oui, on est à un moment fascinant de l'histoire américaine. Au milieu des années 60, on passe de l'équipé sauvage avec Marlon Brando, qui posait sur une fausse moto, on passe de cette imagerie à celle d'Easy Rider. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Quand on regarde le film, on a déjà une connaissance de cette culture de motards, de gangs qui font du trafic de drogue. Mais comment on en est arrivé là ? C'est cela qui m'a intéressé. Alors que tout a commencé avec des gars qui voulaient juste chevaucher des motos et boire des bières.
Voilà, c'était Jeff Nichols pour The Bike Riders, qui vient de sortir en salle, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Vous irez le voir, Benjamin Hoffman.
Ouais.
Vous aussi, Joachim.
Absolument.
Bon, voilà.
Moi, j'aime beaucoup Austin Butler. J'irai le voir pour lui.
Au programme. C'est ainsi que s'achèvent tous les cinémas du monde. On se quitte avec le titre Betty de Deji Urji, le choix de notre réalisatrice, Apolline Verne. Cinéma du Monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré
et Sophie Torlotin, à la réalisation Apolline Verlon.
Merci à Lara Gazal qui nous a aidés à préparer cette émission. Et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma.